Femme novatrice.
Femme novatrice.
Femme novatrice avec Sophie Nanin.
Bonjour et bienvenue à Femme novatrice pour écouter et partager avec vous les échos de leur challenge. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Alix Howard, fondatrice de Gratitude Cérémonie. Mais vous allez voir que le mot transition avec cette personne a tout son sens. Bonjour Alix.
Bonjour Sophie.
Alors, chers auditeurs, vous savez, il y a des fois où j'accueille des personnes que je ne connais pas trop, mais humainement, ça a fonctionné. Et là, je dirais que c'est une personne que je connais depuis 20 ans, mais qui va, vous allez voir, vous démontrer que justement, que vous soyez à Auch, à Cahors, à Rodez, à Tarbes, l'époque de transition, on est en plein dedans. Et elle a fait une évolution superbe. Alors, une femme, oui, de la cinquantaine, et qui surtout va vous surprendre, c'est que du monde digital, qui vous fait peut-être bizarre, chers auditeurs. Et aujourd'hui, c'est Gratitude Cérémonie. Donc, il y a une belle évolution, toujours dans l'humanisme. Hein. Il y a besoin d'équipe, savoir écouter, partager. Mais vous allez voir, là, ces deux femmes déterminées que nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, elle m'apprend et elle vous apprend beaucoup de choses. Alors, Alix, d'où vous partez, déjà, votre histoire? Parce que là, c'est quand même un défi, un challenge tout au long de votre vie.
Effectivement. Oui, 30 ans de carrière professionnelle jusqu'à aujourd'hui, une dizaine d'années dans la communication imprimée, les 20 années suivantes dans l'accompagnement et la conduite de changement à la transformation digitale, souvent en lien avec de grandes entreprises, des dirigeants. Et donc, et en fait, quelle que soit la période, et les différentes expériences, l'envie, voire le besoin, a toujours été de faciliter les transitions, d'écouter ce besoin-là, à ce moment-là, et d'aller sur des sujets innovants pour guider au mieux ceux à qui je prends la main pour le faire. Et cette façon de faire, elle s'est naturellement prolongée. À partir du moment où j'ai compris qu'il y avait une problématique au niveau de la société, dont j'ai pris conscience avec la crise sanitaire, puisque on a pris en pleine figure des situations critiques, notamment ceux de décès, beaucoup de personnes qui sont décédées à ce moment-là. Et donc finalement, en étant confronté à la mort, c'est se confronter au deuil et à la vie. Et ça remet en perspective la vie.
Ah oui, mais là, justement, la vie, vous allez voir. Alors, Alix vous présente ça avec beaucoup d'humilité. Quand elle vous parle de digital, ça veut dire aussi qu'à ce niveau-là, la partie numérique, on va dire, n'était pas très à l'écoute. À la limite, c'est un peu comme l'intelligence artificielle aujourd'hui. Là, qu'est-ce que ça va se passer? Et donc, elle était avant-gardiste sur le sujet. Donc, elle a fait partie des précurseurs. Mais comme aujourd'hui, nous sommes sur une période de transition, il faut s'adapter, évoluer. Le deuil, au contraire, de le positiver parce que c'est une étape. Et là, vous allez présenter les différentes aussi étapes à quoi ça correspond. Ça peut être la mort, c'est vrai, mais ça peut être la mort d'un métier, la mort d'une passion. Il y a tout sujet. Ça, vous allez nous éclairer effectivement là-dessus. Mais j'insiste bien que sur cette évolution, à chaque fois, vous avez quand même une longueur d'avance et surtout un regard ouvert.
Oui, c'est très juste de le présenter comme tel. Effectivement, à l'époque, j'étais déjà dans un milieu innovant, de l'accompagnement sur des sujets que tout le monde découvrait. C'était il y a 15 ans, il y a 20 ans. Et donc, cet aspect pionnier, c'est aussi ce que j'adopte aujourd'hui, puisque être célébrant de vie, c'est un métier totalement inconnu, ou en tout cas très méconnu.
Ah, vous m'avez surprise, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui.
Alors, on connaît aussi le métier de officiant de cérémonie. C'est souvent ça que j'ajoute derrière pour que les gens comprennent.
Alors, officiant de cérémonie, c'est quoi ?
Un officiant de cérémonie, donc laïque, là, en l'occurrence, celui qu'on connaît le plus souvent, qu'on va identifier facilement, c'est celui qui va prendre la parole lors d'une cérémonie d'obsèques quand vous êtes au crématorium. Dans la tête des gens, c'est ça. Plus largement, c'est celui qui va célébrer une cérémonie. Alors, une cérémonie, ça peut prendre toutes ses formes. Ça peut être un mariage, un baptême, effectivement, des funérailles, mais aussi, pourquoi pas, un moment commémoratif au sein d'une collectivité, ou encore prendre la parole pour un anniversaire de mariage, ou les 60 ans de quelqu'un.
Voilà. Donc ça veut dire que de ce concept-là, si on prend finalement dans le cadre du funérarium ou d'un mariage, c'est en fait un lien, on va dire, de son passé, de son souvenir, et de le faire à l'identité de la personne.
Absolument.
Ça veut dire que si on doit le faire dans une joie de vivre, dans un funérarium, et y mettre, je sais pas, c'est un artiste, hypothèse, c'est ça qui lui portait dans son cœur, c'est ça que vous allez accompagner ces personnes à le mettre en place.
Exactement, à le mettre en mots, à le mettre en musique. Ouais, exactement. Okay. En fait, notre métier, c'est d'aller remettre au goût du jour ce qu'on va appeler les rites de passage, qui sont célébrés dans beaucoup de cultures et d'autres continents. C'est quelque chose que nous faisions aussi en Europe, il n'y a encore pas si longtemps, et on l'a totalement oublié. Et un rite de passage, ça sert à quoi? Ça sert à passer d'une étape à une autre, quand il y a un changement d'état, quand on devient parent, quand on se marie, ou quand on décède. Et donc, notre accompagnement va consister, à la demande d'une personne, d'un couple ou d'une famille, de célébrer cette étape de vie, en racontant l'histoire de ceux qui sont honorés, donc défunts ou pas, raconter leur vie avec tout le talent nécessaire du storytelling, de raconter l'histoire. Alors ça passera par un questionnaire qu'on va voir avant, toutes les questions, toutes les conditions, les contextes à comprendre. Raconter l'histoire et associer à cette histoire un geste, une petite cérémonie rituelle aussi, de façon à associer le public ou les proches à ce moment.
Donc j'aime bien dire de vivre le...
j'aime bien dire qu'on va remettre la tribu autour de l'individu.
Ok, pour qu'il y ait une continuité et de montrer qu'on passe la main, c'est une étape difficile, on ne va pas non plus se voiler la face, mais à plusieurs, à la limite. Mais par rapport à ça, justement, quand vous le présentez sous cet angle-là, si on prend un peu l'époque actuelle, transition, la retraite, alors je ne dis pas que toutes les deux on va être à la retraite, on a encore du temps, mais c'est un passage compliqué. Vous le faites aussi, ça, par exemple?
Je le fais
juste
tout à
3
fait.
Minutes pour qu'on... Là-dessus, oui.
Oui, oui. Ah, les étapes de vie. Les étapes de vie, donc on en a parlé, la naissance, bon, mais ça peut être aussi...
D'accord.
En fait, j'aime bien présenter les choses en disant que j'accompagne les étapes de vie du premier souffle au dernier soupir.
Il va falloir que je vienne à ces événements. Ah, c'est très bien mené.
Voilà.
Ouais, très bien amené.
Donc, du premier souffle au dernier soupir.
D'accord.
Alors, bon, la naissance d'un enfant, l'accueil d'un enfant, ça peut être aussi l'adoption d'un enfant. C'est-à-dire qu'on va célébrer cet enfant qui arrive au sein d'une famille. Les passages à l'adolescence, bien sûr, le mariage, toutes les étapes de la vie qui peuvent se passer entre-temps, avant d'arriver à des moments plus marquants de fin de vie. Changer de travail. On peut faire un pot de départ à la retraite en faisant un peu plus que... Enfin, marquer le coup en faisant un peu plus que boire un coup.
Oui, oui.
D'accord.
Ouais. C'est de positiver, d'être constructif toujours,
voilà.
De continuer.
Et puis prendre conscience de cet état. Parce qu'en fait, à quoi ça va servir de célébrer ça? C'est ça qui est important de retenir. C'est qu'on doit faire le deuil de quelque chose. On est sur un moment de deuil. Une vie professionnelle qui s'arrête, une maison on change de maison, on déménage, quitter sa maison pour aller en maison de retraite, une rémission de maladie. Voilà, toutes ces étapes sont marquantes dans la vie. J'ai rencontré des femmes récemment qui vivaient très très mal le fait que leurs enfants quittent le nid. C'est une question identitaire.
Alors, vous avez compris, chers auditeurs, que nous sommes complices, on se connaît depuis 20 ans. Mon fils est parti effectivement cet été et c'est le dernier. Donc voilà, donc je n'ai pas suivi effectivement. Et ce qui va être important aussi que vous précisiez par rapport à ça, donc je n'ai pas suivi tous ces rituels qui se font. Mais effectivement, donc c'est aussi cette partie-là. Mais justement, ce point que vous soulignez, juste pour que l'auditeur comprenne bien, innovante, oui, c'est toujours performé, mais c'est quand même, vous ne l'avez pas fait au hasard, il y a eu quand même 12 jours, 15 jours de formation pour poser le cadre. Vous pouvez expliquer cela pour qu'on comprenne bien que voilà, ce n'est pas de l'événementiel, quoi. C'est quand même quelque chose de très construit qui rassure. chaque personne.
Oui, c'est très important à souligner ça. Effectivement, ce n'est pas de l'événementiel. On me demande, par exemple, à propos du mariage, si je suis wedding planner. Pas du tout. Un wedding planner, pour prendre quelques secondes là-dessus, va organiser tout jusqu'au choix du traiteur, le choix du fleuriste, la salle et les différents sujets très techniques. Moi, je vais être concentrée uniquement sur la cérémonie, avec quand même sa mise en mots et sa mise en musique, et je suis garante de son déroulement. Effectivement, j'ai suivi une formation de 12 jours, répartie sur 6 mois, qui se termine par un examen que l'on passe devant un jury de pairs, et qui va très profondément dans connaître justement l'aspect anthropologique du rite de passage, qu'est-ce qui se fait dans les autres pays du monde pour comprendre quel sens ça a, voilà, qu'il y a des étapes toujours obligées dans un rite de passage et que ça se traduit avec ça. Et puis ensuite, il y a apprendre la prise de parole en public, apprendre à écrire une histoire, connaître aussi toutes les spécificités réglementaires, notamment à propos de tout ce qui est deuil. Et puis, alors ça demande effectivement d'avoir quelques prédispositions à ça. Et c'est vrai que quand j'ai fait mon bilan professionnel...
Vous les avez. Vous les avez. Pas le problème. Oui, mais donc sur les 12 jours, en fait, vous vous retrouvez avec d'autres personnes qui viennent d'un autre univers complètement différent, de tous les âges, j'imagine. Ouais. Mais parce que 6 mois, c'est long. Comment vous avez fait pour adapter, on va dire, aussi avoir ce temps et le temps de se consacrer? Comment ça se passe sur ces 6 mois? Vous avez énormément d'échanges, énormément d'entrevues à vous tous
Oui, alors en fait, les 12 jours sont répartis, se déroulent généralement des week-ends. Donc c'est intéressant aussi parce que c'est compatible avec quelqu'un qui est déjà en activité et qui a envie de se compléter sa propre activité ou commencer à entamer sa reconversion. Et donc, c'est un week-end par mois pendant 6 mois. Et dans l'intervalle, donc on se retrouve effectivement, c'est généralement des groupes de 6 à 8 personnes. Ça peut aller jusqu'à 9. 9, c'est le maximum. Donc, c'est un petit groupe. Et c'est important à souligner parce que il y a l'effet de groupe, justement. C'est-à-dire qu'on se retrouve de week-end en week-end et il y a une espèce d'intimité qui se crée. En fait, on rejoint une communauté beaucoup plus large de tous les célébrants qui ont été formés depuis les 10 dernières années.
Parce que cette formation nationale, ça existe ?
Oui, en fait, elle existe. Alors, la formation est unique en son genre, il faut le savoir. Elle est dispensée en France à un endroit seulement. Moi, je me suis formée à Lyon. Mais elle va se développer. On pourra peut-être y revenir un petit peu tout à l'heure.
Bien sûr.
Puisqu'il va y avoir d'autres endroits où ça va se mettre en place. Et c'est voilà, entre 8 et 10 personnes qui ont été... 7 et 9 personnes exactement, qui ont été formées chaque année depuis les 10 dernières années.
Okay.
Et une fois qu'on est diplômé, eh bien, on rejoint cette communauté où il y a un espèce de SAV des célébrants. On se conseille les uns les autres. Quand on est face à une situation... atypique, qu'on est en panne pour avoir une idée particulière, alors on est là pour se conseiller. Parce que ce qui va faire la spécificité de notre métier, c'est qu'on fait des choses 100% sur mesure et personnalisées. Les gens nous racontent leur histoire et ce qu'on va proposer en face, c'est vraiment quelque chose qui leur ressemble.
Et là, dans notre pays où parfois, bon ben voilà, qui est plus, on se dit, un peu en retard sur des choses, c'est quand même assez... humainement, j'insiste bien, révolutionnaire quand même comme approche. Moi, je trouve qu'au contraire, ça désacralise, on va dire ça comme ça, ou ça facilite aussi les rapports. Mais comment c'est accueilli ? Il y a eu un véritable accueil. Mais attendez, c'est super, vous nous facilitez les choses. Et humainement, il y a une complicité donc, qui est en place. C'est accueilli avec facilité ou c'est encore un peu observé de façon étrange ?
Alors, c'est méconnu.
C'est méconnu, donc
c'est difficile d'avoir spontanément les choses, en sens de l'accueil. En revanche, ceux qui y sont sensibles, c'est souvent des gens qui ont déjà vu des officiants ou des célébrants faire quelque chose, quel que soit le contexte. Et là, ils se disent « Ok, je me le vois bien pour moi ». Parce qu'ils ont compris le bénéfice, en fait, à faire ce type de démarche. Parce que si je prends un mariage, qui est un moment festif, joyeux, les gens ont envie de se faire plaisir, ils dépensent un peu d'argent pour ça, eh bien, généralement, à la mairie, si on prend que la mairie, ben, personne ne dit rien. On est seuls les mariés qui disent oui.
Oui,
c'est tout. Même les témoins ne disent rien, l'assemblée ne dit rien. Dans une célébration religieuse, c'est la même chose. Et nous, on va apporter en plus, c'est pas antinomique avec une célébration religieuse.
Oh non, 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 pour moi,
voilà,
c'est complémentaire.
Mais il va y avoir un moment après. Ah, oui. Voilà, c'est parfaitement complémentaire. Et il va y avoir un moment après pour pouvoir revenir sur l'histoire des mariés, ce qui n'aura pas été fait à la mairie ou à l'église, ou très peu. Les témoins peuvent prendre la parole. Le célébrant va coordonner des prises de parole. Et puis, dans les gestes rituels, il y a les gestes qui vont symboliser l'union forte. Les mariés vont formuler des vœux mutuels. Ils vont se dire l'un l'autre comment ils se voient pour, jusqu'au reste, pour le reste de leur vie. Et puis, on peut généralement, la fin de la cérémonie va se terminer par un rituel collectif, ce qu'on appelle un rituel d'unité, où on va inventer quelque chose qui correspond aux mariés et qui fait que tout le monde va être dans la joie, le partage. Ça crée un moment unique, le temps est suspendu, et les gens ne vont pas très bien se rappeler ce qui aura été dit, ni de ce qu'ils vont boire ou manger. Par contre, ils vont se souvenir des émotions qu'ils auront vécues. Et c'est ça, notre métier.
Et donc là, donc, ça veut dire que c'est, on parlait du côté humain des choses, mais le côté spontané, provoquer une émotion, d'être dans le côté simplicité, c'est ça que vous aussi, vous mettez en avant pour que justement, il y ait de la cette légèreté, mais que les gens voilà, se lâchent à la limite. Plus sur le côté, on ne va pas aller réfléchir ou être dans le jugement de quoi que ce soit. C'est tout l'amour qu'on peut donner et puis voilà.
C'est ça. Qu'ils soient eux-mêmes et que le moment soit joyeux ou plus malheureux parce qu'on parle d'un décès.
Bien sûr.
Ben, en fait, c'est se retrouver, se dire les choses voilà, en transparence, dans la vérité. Effectivement, c'est célébrer ensemble et puis reconnaître les émotions que ça provoque en fait. Et c'est pour ça qu'on peut très bien éclater de rire pendant des funérailles. Mais parce qu'on est dans la joie de reconnaître la personne et que c'est là en fait que va commencer réellement un processus de deuil, que ça soit pour un défunt ou pour une étape de vie. Et même un mariage, aussi joyeux soit-il, ça veut dire aussi qu'on fait le deuil de sa vie d'étudiant, sa vie de célibataire.
Ah oui, complètement. Oui, oui.
Voilà. Et c'est du coup, en le traversant comme ça, c'est plus facile à vivre.
Ça, c'est clair. Non, mais deuil, ça, je suis d'accord sur le fait que, bon, c'est un mot fort, on a été élevé, on va dire, sur cette définition. Mais justement, à cette période de transition, c'est un peu oui ce que vous dites sur le fait de, voilà, on ferme une porte, on en ouvre une autre, et de voir que, c'est la fin d'une histoire, mais il y a quelque chose, effectivement, qui continue, quoi. Mais là, quand vous parliez, justement, sur le côté deuil, donc un défunt, quand on voit au Mexique, on voit en Asie ou autre, à chaque fois, c'est de la couleur, des fleurs, enfin, il y a tout un sacre qui est mis, effectivement, en place. Et c'est dans l'autre sens de dire, mais si ça, ce n'est pas fait, contraire, c'est nos ancêtres, voilà, très bien, presque, on les vénère et on met de la joie, effectivement, autour. Donc là, c'est de pouvoir, quoi qu'il en soit, un peu casser les codes sur aussi le fait, alors pas forcément de religion, mais dans le sens où souvent on dit, c'est enfermé, mais en fait, non, il y a de la joie de vivre partout, et de pouvoir, justement, le mettre en avant et de mettre un peu plus de cœur, on va dire ça.
Oui, c'est ça.
Un peu disparu aujourd'hui, en plus. Donc,
Ouais. Et puis, du cœur et une façon de voir les choses plus proches, en fait, de ce que les gens ont vraiment envie de vivre. Parce que ce qui va se passer, c'est que, en particulier pour des funérailles, c'est que quand une famille est confrontée à ça, si les choses n'ont pas été préparées à l'avance, on est un peu dans la précipitation, on va suivre ce qu'on nous dit. On est pris en main par les pompes funèbres, qui sont là pour faire un devis. Il faut faire des choix un peu à la hâte. Et beaucoup de familles ne vont pas aller beaucoup plus loin. Donc, en fait, les alternatives existent.
Et là, ça veut dire que dans ce cas-là, la famille, dans sa globalité, mais on va dire un petit nombre déjà de personnes, vont être averties en amont de ce qui va se dérouler afin justement, comme vous disiez, sur ce côté convivial et d'échange et de sourire et autres, puissent être là. Donc, ils sont avertis de ce qui va se passer et ils le travaillent avec vous. C'est ça ?
Alors, oui, précisément, La famille va les prévenir et va imposer sa façon de faire.
D'accord.
Voilà. Est-ce que le service de pompes fidèles, par exemple, ne peut pas refuser? Alors, il y a une réglementation à suivre, ça, évidemment. Mais si à un moment donné, je ne sais pas, une famille décide d'arroser de paillettes multicolores le cercueil avant qu'il soit mis en terre, ben, ça sera respecté.
Ah, c'est leur choix.
Et c'est leur choix.
Et à ce niveau-là, pareil, sur le côté à l'époque actuelle, c'est aussi être grand-parent. Il y en a certains, c'est pas simple. Vous accompagnez à ce niveau-là, parce que c'est quand même aussi... alors oui, il y a le côté âge, bien sûr. C'est-à-dire, oh là là, c'est une étape, donc ok. Mais en même temps, on va être dans une... reprendre son insouciance, on va dire ça comme ça. Mais j'en vois quand même qui le passe moyennement. Ça, là-dessus, vous allez...
Oui, tout à fait. Encore une fois, moi, je vais être dans une approche plutôt familiale, moins qu'individuelle. Voilà, okay. Familiale. Mais ça répond, c'est intéressant le sujet des grands-parents, parce que avant les familles étaient les gens étaient proches les uns des autres géographiquement. Mmh. Là, on assiste à un éclatement géographique aussi. Et donc accompagner les étapes, le rôle du grand-parent et tout ce que ça peut impliquer, c'est aussi que chacun retrouve sa place au sein de la famille. Et c'est des enfants qui se sentent reconnus comme tels et des grands-parents qui se sentent reconnus comme tels. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que ça permet de mettre le lien, la cohésion sur des moments choisis, bien sûr. Et donc, célébrer quelque chose dans ce sens avec des petits-enfants, leurs grands-parents, et puis probablement leurs parents et, surtout, et le reste de la famille, ça va créer des moments uniques. Encore une fois, et qui permettent de consolider des liens parfois un peu fragiles.
Et là, donc vous, dans votre métier, hein, 'fin, pour moi c'est plus qu'un métier, je pense qu'un engagement, une implication, vous voudriez qu'en fait à terme, ce côté joie de vivre, savoir vivre, être dans le côté, le sourire, ambiance du sourire, on va dire ça comme ça, au niveau des familles, qu'il puisse y avoir ce rassemblement aussi. C'est comme vous disiez, très justement, c'est séparé. Après, c'est les histoires de famille aussi qui séparent tout ce monde. Mais que ça puisse aussi avoir un effet pour rapprocher. Ça va aussi dans ce sens-là ?
Ça va dans ce sens-là.
D'accord.
Bah, si une famille prend conscience de l'intérêt de faire ce type de pratique pour célébrer un moment fort de la vie, je parlais de la rémission de maladie, par exemple. Imaginez quelqu'un qui a été malade, qui s'est absenté pendant plusieurs mois, voire a été à l'hôpital, hospitalisé. La mort s'est présentée pas loin parce que c'était un cancer. Puis finalement, il y a une rémission du cancer. Donc la mort a tourné les talons et elle est repartie. La personne, elle doit reprendre confiance en elle. Elle doit revenir dans la vie. Et sa famille, ses proches, ils ne savent pas comment s'y prendre. Son travail, le milieu professionnel, les gens ne savent pas comment leur...
Un professionnel, oui, ça
on
je l'ai entendu.
On en parle, on n'en parle pas. Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce
on
qu'on fait?
On le regarde ou on le
voilà,
regarde.
On n'ose pas, étrange. Voilà. Ben, si on fait une célébration en ce moment-là, qui met tous ces gens autour, la tribu autour de l'individu, et ben, ça fait le lien. Et là, on prend conscience que finalement, ben, c'est une étape de la vie. On la traverse et on se sépare d'un état précédent pour rentrer dans un autre. C'est la transition.
Non, mais là, c'est un beau message de fin parce qu'on arrive malheureusement à la fin. Mais maintenant, par rapport à ça, alors on voit que le côté interculture, par exemple, Mexique, Asie, à la limite même gospel, qui sont quand même très doués pour nous surprendre et nous bousculer dans nos émotions. S'il y avait un message de fin, indépendamment du fait qu'il y a un compte Instagram ou un site web, Gratitude Cérémonie, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement.
Gratitude-cérémonie.com.
Ok, avec un S, hein. Je crois.
Gratitude avec un S, cérémonie aussi.
Voilà, d'accord, pour que les gens l'entendent bien. Voilà. Mais en message de fin, vous diriez quoi justement sur cette approche de transition dans laquelle nous sommes et de ce que vous pouvez apporter, mais de transition aujourd'hui, penser différemment, vous diriez quoi là aux auditeurs en phrase de fin?
Alors je dirais que il y a qu'en partageant en fait qu'on peut prendre conscience de finalement quelle perception les gens autour de vous ont vraiment d'un état qu'on est en train de vivre. Et le célébrer, c'est d'abord partager, déjà parce que ça fait du bien de se sentir avec ce qu'on aime, et dans cette communion avec ce qu'on aime, et de ne pas avoir peur d'aller vers ce type de pratique, en fait, parce que c'est ancestral. Ça fonctionne très bien, et depuis des millénaires.
Comme quoi, il n'y a pas tout à changer. C'est regardons aussi ce qu'on a, et ne pas tout révolutionner à 100%. Quoi. L'humain, on ne peut pas l'enlever, on va dire. Bah, écoutez, merci infiniment. C'est un super projet, une super activité. Et merci pour tout ce que vous avez donné.
Merci beaucoup.
Chers auditeurs, à la semaine prochaine.